Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez la première partie du podcast de la table ronde « Santé des femmes, levons les tabous » du 28 septembre 2024. Dans le cadre de la résidence de l'écrivain Martin Winkler à la Bibliothèque municipale de Tours, une table ronde propose d'aborder la question de la santé des femmes et des tabous qui l'entourent. Vous allez entendre les voix de Concetta Penuto, historienne de la médecine à l'Université de Tours, la professeure Pauline Saint-Martin, médecin au CHRU de Tours, chef de service à l'Institut médico-légal, la docteure Nathalie Trignol-Viguier, médecin référente du centre d'orthogénie du CHRU de Tours, et Martin Winkler, médecin et écrivain. Cette table ronde a été animée par Florence Alazard, historienne et vice-présidente mission égalité de l'Université de Tours.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la table ronde « Santé des femmes, levons les tabous » organisée par la Bibliothèque municipale, l'Université de Tours et le CHRU de Tours.
Très bien, donc à nouveau un remerciement à vous, public, d'être venus aussi nombreux cet après-midi. Il me revient le très grand honneur donc, d'animer cette table ronde. Je parlerai très rapidement en introduction pour laisser la parole aux intervenants qui ont des choses extrêmement précieuses à nous dire. Je voudrais commencer d'abord par des remerciements. Bien sûr, je vais remercier les intervenants que je présenterai tout à l'heure. Remercier aussi la mission égalité de l'Université de Tours, remercier le pôle SAPS, donc Sciences avec et pour la société de l'Université de Tours. Remercier également la Bibliothèque municipale de Tours, grâce à qui le séjour de Martin Winkler est possible à Tours, et également Cyclique, qui est partenaire de cette résidence de Martin Winkler. Alors, pourquoi cette table ronde aujourd'hui ? Je voudrais juste dire deux mots, parce que je crois que c'est important pour nous d'avoir aussi peut-être un petit cadre général. Récemment, la philosophe Camille Froidevaux-Métairy définissait ce qu'elle appelait le tournant génital du féminisme. Ce sont ces termes, le tournant génital du féminisme, comme ce moment un peu particulier que nous sommes en train de vivre depuis quelques années et qui voit la défense des droits des femmes se saisir du corps des femmes. Les règles, les poils, la contraception, les violences, le clitoris, les seins, le postpartum, la ménopause, etc. Si le corps des femmes est aujourd'hui encore réifié par la société, il peut aussi être un instrument pour les femmes qui ont décidé en particulier de ne plus se plier aux injonctions de la société. Et donc, dans ce contexte, la question de la santé des femmes devient un enjeu essentiel, justement parce qu'elle oblige à penser l'articulation entre les femmes et les professionnels de la santé, à penser aussi la production d'un savoir médical et d'un savoir médical adapté au corps des femmes, et donc à penser finalement la manière dont les femmes peuvent se réapproprier leur corps. Donc c'est toutes ces questions-là qui seront abordées à travers les différentes interventions. Et puis un dernier mot aussi, peut-être un avertissement, on va parler donc du corps des femmes et donc de sujets qui peuvent être sensibles et douloureux, donc voilà, pour vous permettre d'être avertis et informés de ce dont nous allons parler. Alors je cède tout de suite la parole avec grand plaisir à Concetta Penuto, qui est professeure d'histoire de la médecine à l'Université de Tours et qui poursuit ses recherches au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Ses travaux portent sur la santé des femmes au XVe et au XVIe siècle, et plus largement sur tous les savoirs médicaux à la Renaissance. Et elle a édité en particulier des traités médicaux qui nous sont très précieux pour connaître justement ces savoirs médicaux
anciens. Concetta Penuto.
Merci beaucoup, merci Madame la Vice-Présidente pour cette présentation, merci pour l'invitation, merci à vous toutes et tous d'être là et je suis très heureuse de partager avec vous ces quelques minutes autour de l'histoire de la médecine et donc des tabous sur la santé des femmes. Donc des tabous comme interdits culturels et religieux qui affectent nos gestes, savoirs, les mœurs. Tabou comme outil pour faire craindre une substance, une personne, un objet qu'on considère comme dangereux, qui n'est pas à sa place. Est-ce que donc on retrouve des tabous dans l'histoire de la santé autour des femmes. On en retrouve et sur plusieurs domaines de la santé des femmes dans l'histoire et notamment autour de la génération, de la reproduction et de la fertilité, autour de l'anatomie des organes génitaux, du flux menstruel, qu'on soit dans la menstruation ou qu'on soit dans la ménopause, et grand tabou, la chasteté et donc la virginité des femmes, c'est un autre grand sujet de l'histoire de la médecine. Et puis les plaisirs féminins, les plaisirs au féminin, et tout à l'heure on mentionnait les clitoris, qui est un autre argument important pour nous. Je me limiterai à quelques mots sur la fertilité, sur les organes génitaux et les flux menstruels. Et d'abord, avant de commencer, j'aimerais rappeler que la médecine, jusqu'au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, est une médecine exercée au masculin. On n'a pas de femmes médecins, ou très très peu, et surtout les femmes ne sont pas censées faire des études universitaires et exercer la profession de médecin. Et donc, la médecine est créée dans un contexte social, culturel et religieux qui exclut les femmes de la production des savoirs. Une situation donc d'inégalité dans la production de savoir, dans le geste de soins, qui est particulièrement important quand on parle de gynécologie, où les patientes sont des femmes et les médecins sont des hommes. Et c'est là donc jusqu'au moins la deuxième moitié fin du 19e siècle. Et encore, il faudra attendre pour qu'il y ait un certain équilibre. Et on se retrouve souvent dans des situations de médecine paternaliste qui engendrent des préjugés et des stéréotypes des sexes et genres, mais qui aussi se retrouvent coincés dans ces mêmes préjugés, et peut-être on en verra quelques-uns. D'ailleurs, Hippocrate avait écrit un traité qui s'intitulait « Maladie des femmes, gynécologie ». Et dans ce traité, il avait averti les médecins sur l'importance et sur la difficulté de traiter les maladies des femmes. Une femme connaît son corps, par expérience, disait Hippocrate, par la souffrance des premières menstruations, par exemple. Et dans cette souffrance, elle apprend à connaître les causes de ces maladies. Mais la femme parle très peu avec les médecins, par pudeur, par crainte de ne pas être écoutée. Pourquoi, se demande Hippocrate? Parce que les médecins commettent la faute, l'erreur, de ne pas s'informer auprès des patientes de la cause de leur maladie, parce que la patiente la connaît. Les médecins commettent la faute de traiter les femmes, les maladies des femmes, comme ils traitent les maladies des hommes, alors que les femmes ont un corps différent et des maladies spécifiques aux femmes. Donc la première étape pour ne pas voir mourir les femmes, c'est de connaître le corps des femmes, de les écouter et de connaître les maladies des femmes. Un corps de femme, donc. Un corps de femme qui est un objet de savoir, bien sûr, mais qui est aussi une construction symbolique, une construction culturelle que la médecine absorbe et contribue à produire. La médecine moderne hérite, concernant le corps, des conceptions philosophiques et médicales qui viennent de l'Antiquité. Aristote avait imaginé un modèle de corps plutôt unique, qui était le modèle masculin, un corps chaud, plein de sang, énergique, et qui produisait la sémence, le sperme, qui était vraiment l'acteur de la génération de l'enfant. La femme n'y contribuait en rien, sinon à mettre un peu de matière qui sert à porter l'enfant. Et la femme, en effet, n'était qu'un homme imparfait, était un homme froid, un homme déformé, c'est le mot d'Aristote. Les médecins reprennent cette théorie, la femme est toujours froide, est toujours flegmatique, oisive, la femme est donc d'une température corporelle qui ne permet pas de produire un sperme très performant, mais les médecins nuancent Aristote, les corrigent un petit peu, ils disent « mais quand même la femme a des testicules, parce qu'on trouve des testicules à l'intérieur du corps de la femme, les ovaires ». Jusqu'au XVIIe siècle, on utilise le mot testicule pour nommer les ovaires. Et donc, ces testicules, encore une fois masculins, se trouvent dans la femme. Mais on ne doit pas se dire, OK, finalement, on a une sémence féminine parce qu'on a des testicules. Parce qu'en effet, ces testicules sont très froids, comme le corps de la femme est très froid, et donc, ils produisent une sémence, OK, mais une sémence fluide, aqueuse, une sémence qui sert à engendrer des filles. Pas des garçons. Et là, le problème se complique parce qu'en effet, à un certain moment, si un couple n'a que des filles, le couple est considéré stérile. Parce qu'en effet, c'est la faute de la semence féminine qui brûle la semence masculine, qui consomme la semence masculine, et ne permet pas à la semence masculine, qui est censée engendrer des garçons, prendre les relais sur la génération. Donc le médecin est appelé à intervenir, on a des dossiers des patientes, interviennent du point de vue de la chirurgie et de la pharmacie pour corriger le corps de la femme, qui doit rester féminin et mesuré. Donc, un corps dont la température froide détermine le fonctionnement de la fertilité ou de la stérilité, un corps dont la température détermine également la conformation des organes génitaux. Les testicules donc, sont à l'intérieur du corps féminin, dans le bas-ventre, avec la matrice. Alors, vous avez certainement lu beaucoup de choses sur la matrice, sur la correspondance entre organes génitaux de la génération, disons plutôt masculin et féminin. Galien qui avait dessiné donc, des organes correspondants avec la chaleur masculine qui permettait aux organes de la génération de sortir, donc cette pulsion de sortir, alors que la femme étant froide, elle les garde à l'intérieur. Cette matrice, donc, on se la représente d'une quelque manière et on la voit représentée dans les textes médicaux. Mais comment ? Depuis le XIIIe siècle, on a les premiers manuscrits qui nous dessinent la matrice. Alors, on a plusieurs formes de matrices selon les différentes connaissances médicales. On a des matrices en forme de sapin. Donc, on a un sapin avec des poches, des bulles et des ramifications. Et donc, dans ces sapins, on a trois poches à gauche pour accueillir les filles, gauche, hein, donc imparfait, les diables, etc. Et trois poches à droite pour accueillir les garçons, la perfection, la chaleur, la semence masculine s'implante à droite, etc. Au milieu, une poche pour accueillir les hermaphrodites. On a des utérus dessinés biscornus, comme les utérus des chiens, de certains animaux qui sont biscornus, pour accueillir les grossesses gemellaires. On a des utérus en forme de tuyaux, voire pénis, hein, si l'utérus est identifié au vagin, par exemple. On a plusieurs représentations, on a des utérus en forme d'ampoule et de poche pour accueillir donc, l'embryon. Parce qu'en effet, le but de l'existence d'une femme est la génération. La femme existe pour générer. Moment redouté, la grossesse, l'accouchement, hein, donc... Et les médecins sont toujours présents pour accompagner ces femmes durant les différents âges de la vie, dont la période de grossesse. Bien sûr, il y a les sages-femmes qui sont sur le terrain, mais les médecins écrivent des traités. Les médecins sont là dans les cas pathologiques, bien sûr. Mais les médecins sont là aussi pour faire revenir les règles. Quand les règles ne viennent pas, les médecins fournissent des recettes, des ordonnances, des prescriptions. Et donc, ces recettes sont nombreuses dans les textes de médecine et on les voit circuler aussi dans les secrets des femmes, dans les textes de littérature, d'histoire, dans les carnets, dans les laboratoires des femmes. Des recettes à base des plantes, naturellement, le persil, l'armoise, les poireaux, la rue. Et puis, des recettes à base d'exercices physiques. On a beaucoup de formes de danse, l'équitation, donc beaucoup de manières pour faire revenir les règles. Et pour faire fonctionner donc, un utérus, qui est un peu à l'origine de toutes les formes de santé ou maladie des femmes. En effet, il faut imaginer l'utérus comme cette structure multiforme implantée dans les bas-ventres, mais qui est un peu aussi coincée dans les bas-ventres. Parce que l'utérus est, dans nos textes médicaux, souvent animé. Soit il voyage, selon certains courants médicaux, selon d'autres, il reste dans les bas-ventres, mais il bouge quand même. Et cet utérus est surtout en communication avec tous les autres organes du corps. Et j'arrive ainsi à un petit moment, si j'ai encore une minute, sur les menstruations. Parce que cet utérus communique par les réseaux des veines, des artères, par les nerfs, avec le cerveau, les cœurs, les poumons, l'estomac et les articulations même. C'est un utérus qui est en sympathie. On lit dans les textes du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il est en sympathie avec le cerveau et les autres organes du corps. Et cette sympathie est particulièrement active lors du cycle menstruel, qui est un des grands tabous qu'on mentionne souvent quand on parle de santé des femmes. Or, concernant les cycles menstruels, on arrive assez tardivement à faire la connexion entre menstruation, ovaire et follicule. On est au milieu du 19e siècle, donc pour un historien de la médecine, c'est tard hein, par rapport à la longue histoire de la médecine. Avant, la menstruation, avant cela, était considérée comme un fait mécanique, un besoin du corps féminin. Et on avait une vision très positive de la menstruation, contrairement à ce qu'on peut imaginer. La menstruation, c'était la purgation naturelle d'un corps féminin qui, étant froid, humide, avait besoin de purger tous les sangs, toute la nutrition qu'elle n'absorbait pas. Et donc, mécaniquement, une fois par mois, les 28 jours, on avait cette purgation naturelle qui était la menstruation très bénéfique pour la femme. Sauf que cette menstruation n'était pas anodine. Comme Hippocrate l'avait expliqué, c'est une menstruation qui crée de la souffrance. Donc, c'est une menstruation qui fait souffrir les femmes. Et la menstruation crée toute une série de symptômes et de signes que les médecins devaient suivre. D'abord, il y avait la phase de la pré-menstruation. Déjà dans les textes du XVIe, XVIIe siècle, puis XIXe et XXe siècle, c'est extraordinaire. 1930, il y a des textes extraordinaires à ce sujet. La femme souffrait de effervescence de l'utérus, strangulation de l'utérus. Et ça donnait, comme l'utérus était lié par les veines, les artères, au cerveau et à tout le reste du corps, ça donnait des convulsions, des manies. Par exemple, la femme avait des pulsions, avait la sensation que son corps voulait sortir de la peau. Il y avait de l'irritabilité, mais il y avait aussi de la rage chez la femme. La femme n'était plus féminine quand elle était là en train d'être menstruée et puis durant la menstruation. Et au XIXe siècle, on parlera de psychose menstruelle, on aura la manie, on aura l'hystérie. Et quand le sang bouge dans le corps féminin, il crée toute une série de signes et de symptômes aussi qui vont au-delà de la médecine. La médecine, il ne faut pas l'imaginer comme une science uniquement de laboratoire. La médecine est une science sociale et perméable qui va à l'extérieur, qui communique. Et donc, on a toute une série de croyances qui sont perméables entre la médecine, la société et les savoirs des femmes. J'ai un certain âge et j'ai des souvenirs aussi des choses qui m'étaient dites, mais que je retrouve dans les tests de médecine. Quand on a les menstruations, on ne touche pas aux plantes, pas aux récoltes, parce qu'elles vont mourir. La femme tourne les vins. Les miroirs ternissent à la mayonnaise. Et moi, alors ça, ce n'est pas dans les tests de médecine, mais dans ma famille, fais pas la couleur des cheveux quand tu as les menstruations, parce que ça ne prend pas la couleur des cheveux. La femme ne regarde pas l'enfant, parce que la femme menstruée, parce que l'enfant peut être empoisonné. C'est des formes de contagion de la menstruation qu'on retrouve dans notre culture la plus populaire, mais aussi dans la culture religieuse. Les sangs contagieux, les sangs menstruels est contagieux d'une souillure qu'on amène et qu'on donne à l'autre. Donc, pas de rapport sexuel, pas de toucher. Et je termine donc sur cette ouverture au monde plutôt culturel et à la parole des femmes, parce qu'on retrouve tout ça dans les lettres, dans les paroles des femmes, pour montrer comment on est vraiment dans la perméabilité des savoirs, mais aussi de croyances, et comment la médecine n'est pas uniquement une production, mais aussi une éponge de tous ces savoirs, et peut-être qu'on pourra en reparler après en élargissant aussi les discours à d'autres tabous.
Merci beaucoup, Concetta. Voilà une belle mise en perspective historique. Je vais passer la parole maintenant au docteur Nathalie Trignol-Viguier, qui est médecin généraliste au CHRU de Tours et médecin référent au centre d'orthogénie donc, du CHRU. Donc, à vous la parole.
Bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici et je vous remercie de m'avoir invitée, de m'avoir permis de pouvoir partager ensemble un certain nombre de sujets autour de la santé des femmes. Si on a choisi la journée d'aujourd'hui précisément, ce n'est pas que parce que c'était un samedi, ce n'est pas que parce que c'était la rentrée des classes, c'est aussi parce que c'est le 28 septembre et que le 28 septembre, c'est la journée mondiale du droit à l'avortement. Et il y a deux jours, le 26, c'était la journée mondiale du droit à la contraception. Et donc, compte tenu de l'activité que j'ai centré évidemment mon sujet autour de l'avortement et de la contraception. Il me paraît fondamental de marquer ces deux journées et de montrer à quel point ces deux entités marquent la santé des femmes, puisque grâce à l'avortement, grâce à la contraception, les femmes arrêtent de mourir. Et ça, on le sait depuis que le premier pays a légalisé. Et aujourd'hui, on sait que tous les pays dans lesquels l'avortement est légalisé et la contraception aussi, dans ces pays, on voit immédiatement la mortalité des femmes diminuer, la santé des femmes s'améliorer et par voie de conséquence, la santé des enfants. Nous avons eu la chance, en début d'année 2024, d'être le premier pays du monde à avoir inscrit l'interruption de grossesse dans sa constitution, dans l'article 34, qui dit « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme de recourir à une interruption volontaire de grossesse ». Ça a été extrêmement médiatisé. C'est sûrement une grande chance parce que ça a permis de faire parler de l'importance de l'avortement et de sa constitutionnalisation. Maintenant, il faut rester prudent. Ça n'empêchera pas, selon l'histoire, que les choses reviennent en arrière. Et donc, il va falloir rester extrêmement vigilant par rapport à tout ça. La semaine dernière, j'étais à Bruxelles à un congrès international de professionnels de l'avortement. Et ces congrès ont lieu tous les deux ans. Et tous les deux ans, c'est l'occasion de rencontrer des professionnels et des militants, des associations de tous les pays du monde qui s'intéressent à la contraception, à l'avortement. Et à chaque fois que j'y vais, j'en reviens toujours avec la tête pleine d'idées, parce que ce qui est assez extraordinaire dans ce congrès, c'est qu'à chaque fois, on rencontre des gens qui nous font mesurer à quel point on a la chance de vivre en France et à quel point on a la chance d'avoir la loi qu'on a. Et en même temps, c'est aussi l'occasion à chaque fois de rencontrer des gens qui nous boostent un peu en nous montrant que rien n'est acquis et qu'on peut peut-être aussi faire encore mieux autour de notre législation et autour de ce qu'on essaie d'apporter aux femmes, en tout cas quand on est des professionnels impliqués dans l'interruption de grossesse. Et mes collègues bruxelloises me disaient « Mais vous vous rendez pas compte, les Français, vous êtes toujours en avance parce que vous, la loi, c'était 1975. Nous, ça a été 1990. » Et puis, à côté, il y avait les Québécoises qui nous disaient « Mais c'est quoi votre histoire de loi ? Parce que l'avortement, c'est un soin. Et donc, est-ce que pour un soin, il y a besoin d'une loi ? Parce que chez nous, ben, il n'y a pas de loi. Et donc, vu que c'est un soin, ben, on le fait. » Voilà. Donc, c'est juste pour vous donner un petit peu l'ambiance de ben, « C'est super ce qui se passe ici, c'est extraordinaire par rapport à ailleurs, mais on peut peut-être encore faire bouger les choses. » Et donc, du coup, je vais revenir sur la loi Veil, puisqu'on va fêter son 50e anniversaire dans quelques semaines. Et donc, cette loi Veil de 1975, elle a fait suite à la loi Neuwirth, qui date de 1967, qui a légalisé la contraception en France. Et la loi Veil, elle a d'abord dépénalisé l'avortement avant de le légaliser. Elle n'a été votée que pour 5 ans, avant d'être complètement entérinée. Et aujourd'hui, mais que reste-t-il de la loi Veil ? Est-ce qu'aujourd'hui, vu l'évolution de la législation autour de la loi Veil, il faut se dire, mais qu'est-ce que cette loi a été limitante ? Et en même temps, on a envie de rendre hommage à Madame Veil, et je pense que sa loi, elle a permis peut-être qu'on en soit là aujourd'hui. Elle est arrivée dans un monde où il y avait une très grande hostilité autour du vote de cette loi. La loi qui précédait, c'était la loi de 1920 qui condamnait au fer l'avortement. Et c'est grâce aux femmes, grâce aux hommes, aux associations, aux mouvements militants. Et le MLAC, c'était le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et donc ce mouvement, il a été très court, parce que c'était dans les années 73, avant le vote de la loi, et c'est ce mouvement qui a permis aux femmes de commencer à arrêter de mourir en France, avant même que les médecins soient autorisés à pratiquer la loi, puisque c'était peut-être pour certains des médecins, mais c'était aussi des personnes de la société civile qui avait décidé d'accompagner les femmes dans l'avortement pour que les gestes qu'elles faisaient, qui les mettaient en danger, qui mettaient en danger leur corps ou qui mettaient même en danger leur vie pour certaines d'entre elles, eh bien, ce mouvement a permis de montrer sur la place publique que l'avortement pouvait être fait dans de bonnes conditions, que de toute façon, les femmes qui voulaient avorter, avorteraient, et autant qu'elles avortent dans de bonnes conditions, et qu'il n'y ait pas de conséquences péjoratives à leur histoire. En parallèle, il y a eu aussi le procès de Bobigny, que Gisèle Halimi a défendu, et donc Marie-Claire, cette jeune mineure qui a été accompagnée par sa mère pour avorter, a été la première femme en France à permettre que toutes les femmes suivantes puissent avorter sans prendre le risque de peine de prison. Et donc le cadre dans lequel la loi s'est inscrite était donc dans un monde particulier par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, en quoi cette loi était restrictive, même si elle était extraordinaire ? Elle était restrictive parce qu'elle ne permettait que aux médecins de faire des interruptions de grossesse et exclusivement dans les établissements de santé. Elle limitait la possibilité à un terme de 10 semaines de grossesse. La femme devait être en détresse pour pouvoir avoir recours à l'interruption de grossesse. Donc, les soignants qui recevaient ces femmes devaient quelque part estimer cette détresse et être le garant de la détresse pour pouvoir accéder à l'interruption de grossesse. Il y avait un délai de réflexion d'une semaine qui était imposé aux femmes à partir du moment où elles avaient rencontré le médecin, comme si elles n'avaient pas pu déjà commencer à réfléchir avant de le rencontrer. Et en 1975, la majorité, c'était 21 ans, et il fallait une autorisation parentale pour les mineurs qui souhaitaient recourir à l'interruption de grossesse et un entretien psychosocial qui était obligatoire, qu'on soit majeur ou qu'on soit mineur, pour aussi probablement en partie accompagner la parole de la femme, mais aussi peut-être s'assurer qu'elle comprenait réellement ce qu'elle souhaitait faire. Et puis cette notion de clause de conscience, de double clause de conscience, puisqu'en médecine la clause de conscience existe, qui a été rajoutée pour permettre à ces médecins qui étaient les seuls à pouvoir faire des interruptions de grossesse et qui à l'époque pour une partie y étaient farouchement opposés, et notamment le Conseil de l'Ordre, avait donc cette possibilité de ne pas accepter de faire des interruptions de grossesse. Cette loi, elle a mis fin au décès des femmes en France pour cause d'avortement. Avant la loi, une femme par jour mourait en France des complications d'un avortement clandestin. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le risque zéro, il n'existe jamais. Et pourquoi il peut encore arriver à des femmes en France de mourir des conséquences d'une interruption de grossesse? Parce que la grossesse, c'est un événement dans la vie qui n'est pas un événement sans risque. Et on sait qu'il est malheureusement, il est factuel qu'il est plus dangereux d'accoucher que d'avorter, puisque la grossesse, c'est un événement de la vie qui, plus les semaines avancent, plus les risques existent pour la femme pour un certain nombre de pathologies, jusqu'à l'accouchement et dans les suites de l'accouchement, et qu'à partir du moment où on met un terme à la grossesse plus tôt, eh bien, on évite tous ces risques-là. Alors, évidemment, les femmes n'avortent pas pour éviter les risques de la grossesse. Elles ont bien d'autres raisons. Mais en tout cas, on entend souvent dire que, oh là là, l'avortement, c'est dangereux. Et il est rare qu'une femme qui vienne demander un suivi de grossesse pour déclarer sa grossesse, il est rare déjà qu'on lui demande si elle a besoin d'un temps de réflexion avant qu'on déclare sa grossesse. Et il est rare qu'elle nous dise, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je vais mourir? Par contre, la plupart des femmes qui viennent dans un cabinet à l'occasion d'une demande d'interruption de grossesse vont s'inquiéter de est-ce que j'ai le droit de le faire, est-ce qu'il est encore temps, est-ce qu'il y a encore un délai de réflexion et est-ce que c'est dangereux. Donc on voit bien que sur un événement qui ne se situe pas au même moment de l'histoire et qui ne comporte pas les mêmes risques, on ne voit pas les choses de la même façon. Aujourd'hui dans le monde, il y a déjà 75 pays ou seulement 75 pays qui ont légalisé l'avortement avec des lois plus ou moins restrictives ou permissives et 21 l'interdisent encore. On a 40% des femmes dans le monde aujourd'hui qui vivent dans un pays dans lequel il est interdit d'avorter ou de donner façon extrêmement restrictive. Et donc, malheureusement, une femme meurt toutes les 7 minutes des conséquences d'un avortement clandestin. Et donc, depuis qu'on se parle, il y a malheureusement un certain nombre de femmes qui sont mortes. Et je pense qu'aucune en France n'est morte aujourd'hui, puisque ça arrive à, exceptionnellement à une ou deux femmes dans l'année en France. Et ces femmes seraient peut-être mortes si elles avaient poursuivi leur grossesse aussi. Donc c'est lié aux comorbidités, c'est lié aux pathologies inhérentes à la vie de ces femmes que ces circonstances surviennent, alors que dans le monde, les femmes qui décèdent des conséquences d'un avortement, c'est parce qu'on ne les a pas aidées à avorter et parce qu'elles ont dû avoir recours à des manœuvres extrêmement délétères pour leur santé. On a 34 pour 1000 femmes aujourd'hui qui vivent dans un pays qui interdit l'avortement et 37 pour 1000 femmes qui aujourd'hui vivent dans un pays qui l'autorise. La différence, c'est le danger ou la sécurité. Aux États-Unis, depuis l'abrogation de la décision Roe v. Wade par la Cour suprême des États-Unis qui a interdit le droit à l'avortement au niveau fédéral, il a été mis en évidence une augmentation de la mortalité maternelle et la mortalité des nourrissons, ainsi qu'une baisse du recours à la contraception. Donc on voit qu'en quelques semaines, en quelques mois, tout peut basculer dans un pays. Il suffit d'une décision. On augmente de 10 à 70% le risque de décès des femmes si on empêche l'accès à l'IVG en poursuivant la grossesse. Alors aujourd'hui, on en est là. On a voulu faire évoluer la loi. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu faire évoluer la loi? Pourquoi est-ce que toutes les restrictions qu'il y avait dans la loi Veil que j'ai évoquées tout à l'heure n'ont peut-être plus leur place aujourd'hui, et peut-être que certaines des restrictions qui sont aujourd'hui dans notre loi n'auront, j'espère, plus de place dans les années à venir. Puisqu'il y avait une limite d'âge. En fonction de l'âge, il y avait des contraintes liées à l'apparent aux parents. Aujourd'hui, ça a été en partie écarté, puisqu'une femme peut accéder à l'interruption de grossesse sans l'autorisation de ses parents, avec l'accompagnement d'une personne de son choix majeur qui va pouvoir l'accompagner dans l'acte d'IVG. On a aussi pris conscience que la capacité à découvrir rapidement une grossesse, c'est pas si facile que ça. Et notre corps ne nous permet pas toujours de découvrir rapidement la grossesse. Le corps soignant ne nous aide pas non plus toujours à découvrir notre grossesse, parce qu'il suffit qu'on ne pense pas à cette possibilité pour qu'on erre vers d'autres diagnostics. Et il existe aussi malheureusement des endroits en France où il est plus difficile d'avorter que d'autres, parce qu'il y a une grosse hétérogénéité dans l'accès aux soins dans notre pays, et il serait souhaitable que, où qu'on habite en France, on puisse accéder aussi facilement à l'interruption de grossesse, avec toutes ces méthodes et avec la même bienveillance partout où on va pour recevoir un soin. Ce soin, initialement, n'était pas remboursé par la Sécurité sociale en 1975, et aujourd'hui, c'est entièrement pris en charge par la Sécurité sociale, sans avance de frais, quand les soignants qui pratiquent l'interruption de grossesse appliquent la loi et donc ne font pas payer la femme et utilisent le système de la Sécurité sociale pour se faire rembourser. Il y a quelques jours, comme chaque année, juste à la veille de cette journée du droit à l'avortement, l'adresse, donc nos statisticiens en France, nous donnent les chiffres autour de l'interruption de grossesse. Et donc, la publication d'il y a deux jours dit qu'il y a eu, en 2023, 243 623 IVG en France, soit 8600 de plus qu'en 2022, contre 678 000 naissances, soit 48 000 de moins en 2023. Peut-être que certains journaux ont relayé la hausse du nombre d'interruptions de grossesse. Moi, je ne sais pas si je dois me réjouir à chaque fois que j'apprends qu'il y a une hausse ou une baisse du nombre d'interruptions de grossesse. Moi, ce dont je me réjouis, c'est que les femmes qui en ont besoin y aient accès. Et donc, si cette année, plus de femmes ont eu besoin d'accéder à l'interruption de grossesse et qu'elles ont pu, ben, je suis ravie qu'il y ait une hausse du nombre d'interruptions de grossesse. Et si l'année dernière, il y en avait moins, j'espère que ce n'est pas parce qu'elles n'avaient pas pu accéder à l'interruption de grossesse. Et plus 8600 interruptions de grossesse, moins 48 000 naissances, on voit bien que le problème de la baisse aujourd'hui des naissances n'est pas lié à l'allongement du délai de l'interruption de grossesse. C'est simplement des histoires différentes pour des femmes différentes, à des moments différents de leur vie. Mais toutes les femmes, à un moment, en tout cas toutes les personnes à utérus, à un moment de leur vie, pourront être confrontées à une grossesse qu'elles vont avoir souhaitée ou pas, qui va arriver au bon moment ou pas, qui va avoir été souhaitée et qui ne va plus l'être, qui n'était pas prévue et qui va devenir une chance pour elle. Ce qui compte, c'est qu'à l'instant T où on est, on puisse avoir l'autonomie du choix de ce qui se passe dans notre corps et de ce qui va nous arriver pour la suite de l'histoire. Une femme sur trois dans sa vie aura une interruption volontaire de grossesse ou a déjà eu. Il y a beaucoup de femmes dans cette salle. Nous avons, pour beaucoup d'entre nous, étaient confrontés ou seront confrontés à cette question. Alors pourquoi avoir limité à 10 semaines de grossesse en 1975 ? Ben parce que déjà 10 semaines de grossesse, ça a été compliqué à obtenir. Et donc si d'emblée, il avait été demandé plus, peut-être que la loi ne serait pas passée. Heureusement, des lois successives ont permis qu'aujourd'hui, on en soit à 14 semaines de grossesse. Et donc, tous les 25 ans, on gagne 2 semaines. Pourquoi un délai de réflexion alors que on n'a peut-être pas besoin d'attendre que le soignant nous donne cette autorisation? La suppression de la notion de détresse en 2014 a pour moi été une véritable chance pour à nouveau remettre le choix et l'autonomie des femmes plutôt que de devoir se justifier de pourquoi on ne voulait pas de cette grossesse à ce moment-là de notre histoire. En 2024, les sages-femmes nous ont rejoints dans la possibilité de faire des IVG instrumentales. Elles nous avaient déjà rejoints en 2016 avec l'IVG médicamenteuse, et fort heureusement, parce que les sages-femmes étaient là avant les médecins ou avec les médecins pour accompagner les femmes dans les demandes d'interruption de grossesse, et les sages-femmes sont là tout au long de la vie de la femme pour accompagner leur parcours.
Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Martin Vaclair.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Marc Zafran, je suis né à Alger. J'ai été étudiant en médecine à la faculté de médecine de Tours. J'ai exercé la médecine de la fin des années 70, toute fin des années 70 jusqu'en 2008, en particulier à l'hôpital du Mans, au centre de planification de l'hôpital du Mans, où j'ai pratiqué des IVG pendant longtemps. Depuis 35 ans, j'écris des livres sous le pseudonyme de Martin Vaclair. Alors, comme le thème général, c'est les tabous en médecine, je me suis posé la question de savoir ce que c'était que les tabous dans la santé des femmes. Et en fait, je suis revenu à la définition du mot tabou. Le tabou, c'est une interdiction qui est en général sacrée, en fait, surnaturelle. C'est-à-dire qu'un lieu peut être tabou, il ne faut pas y aller. Une personne peut être tabou, il ne faut pas la toucher ou il ne faut pas l'approcher. Donc j'ai essayé de réfléchir à ce que ça voulait dire en termes de santé des femmes que les tabous. Alors, j'en ai trouvé quelques-uns, et évidemment la définition n'est peut-être pas tout à fait appropriée, mais c'est approximatif, donc ça mérite d'être discuté. Il y a un premier tabou qui me semble très important en santé des femmes, c'est qu'on ne les écoute pas. C'est-à-dire c'est comme si le fait d'écouter, ça c'est lié aux professions de santé, et en particulier à la profession médicale en France, on n'écoute pas ce que disent les femmes. Moi, j'ai été éduqué par des profs qui me disaient, vous savez, il ne faut pas écouter ce que disent les patients, et surtout les femmes. C'était complètement contradictoire avec ce que j'avais appris dans ma famille, et j'apprenais beaucoup de choses intéressantes, comme par exemple une phrase, « Ah tiens, tu sais, une telle, elle est enceinte. » Réaction d'une autre voix, « Oh, quelle tuile !» J'ai su très tôt qu'une grossesse, ce n'était pas forcément une sinécure, un truc dont on devait se réjouir et une chose merveilleuse. Donc j'avais bien fait d'écouter. Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte en plus d'un truc, et là je m'adresse aux hommes, ça a été dit aussi par Nathalie tout à l'heure, vivre, la vie c'est risqué, bon ça je ne vous apprends rien, mais la vie d'une femme, c'est encore plus risqué. C'est-à-dire que, et là je parle à activité sportive et dangereuse équivalente, il est plus risqué d'être une femme, d'être une femme, parce que dès que vous êtes enceinte, la probabilité que vous mouriez augmente. Elle augmente avec le temps et avec le délai de grossesse, mais statistiquement, il y a plus de femmes qui meurent d'être enceinte à n'importe quel moment de leur grossesse. On peut faire une phlébite et une embolie à 4 mois et demi. Il y a plus de risques de mourir parce qu'on est enceinte que parce qu'on fait une IVG ou parce qu'on prend la pilule. Il y a plus de décès par grossesse que par contraception ou IVG. Donc rien que le fait de décider d'être enceinte met une femme en danger. Danger que les hommes, en tout cas les hommes qui n'ont pas d'utérus, ne connaîtront jamais. Ça m'a, en anglais on dit, it sobered me up, ça m'a rendu sobre, hein, je veux dire, ça m'a dégrisé, voilà, le mot en français c'est dégrisé, d'un seul coup, c'est-à-dire que j'ai pris conscience, quand j'étais étudiant, que si un jour je voulais avoir des enfants, il faudrait qu'une femme prenne le risque de mourir. Ça a conditionné toute ma perception des choses par la suite, après je me suis un peu éduqué, parce que c'était juste un peu rudimentaire comme pensée. Mais c'est pas mal d'avoir déjà cette pensée parce que ça permet de s'ouvrir en se disant « Wow !» Donc la première chose, c'est écouter. Écouter les femmes, écouter aussi ce qu'on dit sur la santé des femmes, c'est-à-dire, voilà, être une femme, c'est risqué. Écouter ce que disent les femmes de leur corps, hein, Conchita l'a bien exprimé tout à l'heure, sur le fait que il y a un savoir lié à la connaissance de son propre corps, qui est un savoir qui a de tout temps été partagé par les femmes entre elles, et auquel les hommes voulaient ou ne voulaient pas avoir accès. Il se trouve que dans l'environnement de la faculté de médecine dans laquelle j'ai été éduqué, on tenait pas du tout à l'entendre, et surtout, on ne le considérait pas comme ayant une valeur scientifique, une valeur pédagogique, une valeur éducative. C'était considéré comme du bruit de fond, des parasites. Donc déjà dépasser ce tabou, c'est-à-dire dire la personne qui connaît le mieux son propre corps, c'est la personne concernée. Si c'est une femme, c'est elle qui est la mieux placée pour dire ce qui se passe, ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve, ce qu'elle redoute, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle ne veut pas. Le deuxième tabou, c'est la non prise en compte des émotions. Nous sommes des êtres d'émotions, de sensations et d'émotions. Le cerveau et le corps, c'est la même chose. Donc, notre émotion, c'est un ressenti qui a la même valeur qu'une piqûre au bout du doigt. Vous avez des émotions comme par exemple la faim ou le fait d'avoir envie de dormir. Ces émotions, vous les respectez. Il y a des émotions plus fines, plus complexes. Et paradoxalement, parce que, pour des raisons culturelles qui seraient trop longues à aborder, les émotions des femmes ont toujours été dénigrées, sous-estimées, rejetées, balayées. Avoir des émotions, surtout en France, hein, la raison d'un côté, les émotions de l'autre. Hein. Il y a une séparation sexiste, la perception du monde, c'est-à-dire que les personnes qui sont douées de raison ne doivent pas avoir d'émotions. Les personnes qui ont des émotions ne peuvent pas avoir vraiment une raison tout à fait. Or, la prise en compte des émotions, elle est essentielle. Tout à l'heure, on parlait de la perception de l'infarctus du myocarde, qui n'est pas la même, pour des tas de raisons qu'il faudrait analyser et qui sont un petit peu compliquées, qui n'est pas la même pour un homme et pour une femme. Et pendant très longtemps, on a sous-estimé les perceptions qu'avaient les femmes d'un accident cardiaque ou cardiovasculaire, en disant, ouais, bah d'accord, bah vous n'allez pas bien, d'accord, vous vous sentez fatigué, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas la douleur qu'un homme, le type, il est plié, là, lui, on l'emmène tout de suite au SAMU, mais vous, ça... Et c'était des infarctus, et il y a beaucoup de femmes qui sont mortes parce qu'on n'a pas écouté l'expression de leurs émotions. Le troisième tabou, c'est que l'enseignement, et ça aussi, ça a été déjà mentionné avant, l'enseignement de la médecine est un enseignement masculino-centré. Il y a même les recherches sur les médicaments qui sont centrées sur les hommes, non pas parce qu'on ne veut pas étudier les femmes, mais parce que les femmes, c'est plus compliqué. Une femme, ça peut être enceinte, on ne veut pas qu'elle soit en train de tester un médicament, qu'elle se retrouve enceinte, ça complique. C'est le bordel, quoi. Donc, eh ben, on évite d'essayer des médicaments sur les femmes, on les essaye que sur les hommes. Et quand une femme vient avec un effet secondaire d'un médicament qui n'a pas été testé sur les femmes en disant « j'ai tel effet secondaire » et que le médecin regarde la vignette et que sur la vignette, il n'y a pas l'effet secondaire, il dit, ben, ça doit être dans votre tête, madame. Ben oui, ça doit être dans sa tête, évidemment. Le seul problème, c'est que toutes les émotions et les sensations sont dans la tête. Oui, c'est dans sa tête, mais c'est vrai. Seulement, ça n'a pas été testé sur des femmes. Donc cet enseignement et cette recherche masculino-centrée, elle compromet complètement la prise en charge et la délivrance des soins aux femmes, puisqu'on ne sait pas, on n'enseigne pas aux étudiantes et aux étudiants en médecine, on ne leur enseigne pas les spécificités de ce que c'est qu'être une femme, avoir une physiologie de femme, avoir des maladies qui sont spécifiques de cette physiologie. Personnellement, si j'étais 1, ministre de la Santé, 2, ministre de l'Éducation nationale et 3, doyen d'une fac de médecine, j'imposerais à ma faculté de médecine, en tant que faculté pilote, d'enseigner la santé, de former toutes les professionnels de santé, pas seulement les médecins, sur la santé des femmes. Pourquoi ? Parce que qui peut le plus, peut le moins. La santé des hommes, c'est plus simple, pour des tas de raisons. Et ce n'est pas dénigrer la santé des hommes, je suis un homme, ce n'est pas la dénigrer, dire que c'est plus simple. Donc on devrait enseigner le plus compliqué et l'enseigner à tout le monde. Il n'y a aucune raison que la santé des femmes soit réservée à une spécialité ou à des sous-spécialités alors que tous les professionnels de santé et tous les médecins ont affaire à des femmes. C'est absurde. Quand on prend en compte ces tabous, on se rend compte aussi qu'ils sont sous-tendus et ils sont avalisés par quelque chose qui est inhérent à la société française, c'est la hiérarchisation dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la hiérarchisation tout simplement des personnes, par le biais de leur statut, de leur titre, de leur genre, bien entendu, de leur état de santé, de leur situation, est-ce que cette personne est une personne qui a un handicap, du fait qu'elle a des papiers ou non. Nous vivons dans une société extrêmement hiérarchisée. Cette hiérarchisation se retrouve dans les professions, entre guillemets, d'élite, c'est-à-dire les professions qui ont le statut le plus élevé dans une société, les médecins en font partie, et ces professions entre guillemets d'élite reproduisent, non seulement bien entendu dans leur comportement avec les personnes qu'elles sont censées soigner et à mon avis servir, je pense qu'un médecin ça doit être au service de la personne, et cette hiérarchisation elle s'exerce aussi, et c'est aussi extrêmement délétère, elle s'exerce aussi sur les personnes qu'on forme, les futurs professionnels de santé. Je ne vous donne pas 50 exemples de maltraitance qui sont exercées, non seulement entre les professionnels de santé et les personnes soignées, mais aussi à l'intérieur des professions de santé, entre professionnels, à cause de cette hiérarchisation, et même y compris à l'intérieur du corps médical lui-même. On ne peut pas soigner dans les rapports de force. Le soin, c'est une activité de service, c'est une activité de soutien, c'est une activité collaborative, c'est une activité réciproque. J'apprends autant des personnes que je soigne que ces personnes apprennent de moi. J'apprends d'ailleurs plus, parce que moi j'en soigne beaucoup, alors qu'elles ne sont soignées souvent que par une personne. Comme je soigne beaucoup de gens, j'apprends beaucoup. Donc c'est réciproque, c'est mutuel, c'est communautaire. Je sais que c'est un gros mot, mais pas dans le pays où je vis, au Canada, où le mot communauté est un mot extrêmement important. La santé devrait être une activité, une réflexion, un objectif communautaire. Je veux en venir au fait qu'il y a des avancées énormes qui sont faites aussi bien dans l'enseignement, dans les luttes légales. Hein. Quand la loi est du côté des femmes, ça se passe mieux. Quand elle est contre, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, par exemple aux États-Unis, on est absolument dans la question de la liberté d'être soi-même et de faire de soi ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours eu des obsessions qui étaient que je ne peux pas être libre si tout le monde n'est pas libre. Et moi, en tant qu'homme, je ne peux pas être libre si les femmes ne sont pas libres, en particulier. La santé des femmes soulève le problème de la liberté. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi, à mon avis, que ça devrait être enseigné à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas se défendre contre un arbitraire si on n'a pas les informations qui nous permettent de nous défendre. Les femmes ne peuvent pas se défendre contre les arbitraires des professionnels de santé ou des politiciens, peu importe, si elles n'ont pas les informations qui leur permettent de dire « Non, tu ne peux pas m'imposer ça parce que j'ai tel droit. Non, tu ne peux pas m'imposer ça parce que mon autonomie dit que je peux faire ce que je veux. » Je vous donne un exemple très simple et je terminerai là-dessus. Je disais tout à l'heure que le risque de mourir est très important quand on est une femme. Donc le facteur de risque, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus on a risque de mourir. Il y a un facteur de risque que les femmes ne partagent pas avec les hommes et qui est indépendant de leur âge. C'est le comportement du corps médical. Je suis très sérieux. Les femmes sont à risque à cause du comportement des médecins. La formation des professionnels de santé est un élément majeur dans la santé des femmes. Et je vous invite à l'aborder parce que c'est souvent passé sous silence aussi. C'est un tabou. Hein. Il y a une sorte de ligne de conduite de comment on forme les médecins. Mais en fait, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que si on modifie la formation des médecins, ne serait-ce qu'en faisant former les médecins par d'autres professionnels de santé que les médecins. Si on change cette formation, d'un seul coup, non seulement on leur apprend d'autres choses, mais on fait disparaître les hiérarchies, puisque les autres peuvent leur enseigner quelque chose. Et donc je voulais terminer là-dessus, je voulais dire que l'un des tabous qui n'ont pas encore été adressés sur la santé des femmes, c'est de se poser la question de savoir comment on forme les personnes qui sont censées soigner les femmes. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer ça ? Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Pauline Saint-Martin, qui est donc chef de l'Institut médico-légal du CHRU de Tours, responsable aussi de la Maison des Femmes. Donc je lui laisse la parole pour aussi 10-15 minutes. Merci.
Oui, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à cette conférence avec des intervenants aussi prestigieux. Donc moi, je travaille au sein d'une équipe, l'équipe de médecine légale au CHU, qui accueille en fait depuis 25 ans des victimes de violences aux unités médico-judiciaires. C'est des victimes hommes et femmes et enfants. qui ont déposé plainte pour des violences qui peuvent être anciennes, récentes, qui viennent de se produire ou qui se sont produites il y a 30 ans parfois, des délais très importants. Et nous, on a un travail de constat des blessures, c'est-à-dire que le corps va devenir une preuve. Et donc, en fait, on va chercher, en tant que médecin, les répercussions des violences chez cette victime, mais dans un but que ça soit une preuve pour la procédure qui va avoir lieu, puisque vous le savez, en France, pour condamner un ou des auteurs de violences, il faut qu'il y ait des preuves. Et depuis 3 ans, je fais aussi partie d'une équipe qui est un peu différente, c'est-à-dire qui accueille aussi des femmes et des enfants victimes de violences, mais cette fois qui, en plus du constat, propose un parcours de soins plus global, parce que entre 25 ans et 3 ans, vous le savez, il y a eu pendant toutes ces années une prise de conscience du fait que les répercussions des violences, elles ne devaient pas simplement être constatées, elles devaient être aussi prises en charge et soignées, parce qu'elles sont très importantes. Alors ça, c'est un fait, c'est que tout le monde dans sa vie peut être victime de violences, mais quand même, quand il s'agit de violences chroniques répétées par un auteur connu, de violences sexuelles, psychologiques, intrafamiliales, c'est quand même plus souvent les femmes et les enfants qui sont des victimes de violences. Donc ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je parle des femmes. Et puis après, il y a le tabou. Dans ce sujet, on le sait, vous le savez tous, on en parle beaucoup, c'est que les femmes et toutes les victimes et les femmes ont du mal à aller déposer plainte. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, on ne m'a jamais parlé de violence. C'est-à-dire que j'ai passé mes études de médecine, je voulais déjà être médecin légiste, c'est arrivé très tôt, mais on ne m'en a jamais parlé. Et j'ai fait aussi des gardes aux urgences, et il y avait des victimes de violence. C'était évident, on voyait des femmes arriver avec des lésions traumatiques, c'était clair que ce n'était pas accidentel, et on ne leur posait pas la question. Et pendant des années, quand j'ai débuté la médecine légale, donc là on est un peu plus tard, il n'y a aucun confrère qui m'a jamais appelé pour un conseil sur une patiente qu'il avait pour des violences. Et puis, depuis 2020, la Haute Autorité de Santé conseille aux professionnels de santé de faire un dépistage systématique chez les patientes des violences subies, soit en ce moment, au moment où elles consultent, soit dans leur vie. Alors, ça, bah, c'est évident qu'il faut faire du dépistage systématique. Hein. L'autre pays le savent très bien, parce qu'effectivement, c'est une perche lancée dont les victimes peuvent se saisir. Et pour autant, bah, ce n'est pas intuitif. C'est-à-dire que les médecins, mais pas seulement, hein, d'autres professionnels de santé, qui devraient aussi respecter ces recommandations, ont des hésitations. Alors moi, j'entends, quand je fais des formations, on n'a pas trop le temps, on ne peut pas... Il y a plein d'autres patients. Qu'est-ce qu'on fait si la personne dit oui ? Ben, c'est vrai que ça, c'est un problème quand on pose une question et que la réponse ne correspond pas à ce qu'on attendait. Moi, je suis urologue, alors bon, ben, je comprends, mais il faudrait poser ces questions. Alors qu'on en pose plein d'autres, très intimes en fait. Hein. Quand on est professionnel de santé, on a comme un passe-droit pour rentrer dans l'intimité des femmes. On leur pose des questions sur leur cycle, sur leur vie sexuelle, sur leur transit. Mais les violences, c'est encore le tabou ultime parce que c'est à l'intérieur de la maison. Le fait de ne pas rentrer à l'intérieur de la maison, quand on est professionnel de santé, je peux l'entendre, mais ça peut tuer des gens. La première conséquence des violences chez les femmes, c'est la mort. Ce n'est pas très fréquent, mais ça arrive, et ça arrive toujours autant, quoi qu'on fasse, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, c'est à peu près constant. Donc, le tabou, en fait, il est chez les femmes, qui n'osent pas en parler parce qu'elles sont sous emprise, donc ça, c'est un phénomène bien expliqué. Mais le tabou, il est surtout chez les professionnels de santé pour parler de ce sujet. Pourtant, ce dépistage, il est indispensable parce que les conséquences des violences chez les femmes, elles sont très importantes. Moi, j'en vois dans ma pratique de 2 ordres. Il y a d'abord les violences qui sont visibles. C'est les plus simples à repérer, mais c'est déjà pas simple. C'est les lésions physiques dues à des traumatismes, donc un coup, une lésion, en gros. Ça, c'est les violences visibles. La plus évidente, j'en ai parlé, c'est le décès. Et par cynisme, j'ai envie de dire, c'est les plus faciles à détecter. Parce que, bah, on va le voir. Si on le voit, on se dit que le professionnel de santé, il devrait avoir l'œil. Il devrait savoir reconnaître ça. C'est quand même son métier. Et c'est quand même compliqué. Parce que souvent, la femme, quand elle arrive chez son généraliste, quand elle va voir sa sage-femme, quand elle va aux urgences, elle va donner un scénario accidentel pour expliquer la lésion. Plus la lésion est grave, moins le scénario accidentel va tenir. Parce que quand on a un traumatisme crânien grave, quand on a des fractures, quand on a des lésions d'organes, en général, c'est très très technique, très spécifique. Et le neurochirurgien, l'orthopédiste, le chirurgien digestif, ils savent qu'à telle lésion ne peut pas correspondre une hypothèse accidentelle. Mais toutes les femmes n'ont pas des lésions si graves. Certaines ont des lésions superficielles. Des fois, c'est très grave. Les femmes qui se font étrangler et qui survivent, en fait, il y a très peu de lésions. C'est très superficiel et dès que la main se relâche, elles respirent et donc elles n'ont quasiment pas de conséquences. Ça disparaît des lésions de strangulation manuelle en 2 jours. Donc elles vont venir, c'est très superficiel. Si on ne leur pose pas de questions, pardonnez-moi l'expression, ça passe à l'as. Et pour autant, ça traduit des faits extrêmement graves. Mais en tout cas, ces lésions physiques, eh bien, elles peuvent entraîner une suspicion même chez des amis, des voisins. Je ne parle pas que des médecins et des professionnels de santé, chez des collègues. Qui souvent ne vont pas agir parce que là encore, on ne rentre pas dans la sphère de l'intime, même quand on est des proches. Quand il y a des violences répétées, chroniques, il peut y avoir des lésions qui seront superficielles, voire même pas de lésions du tout. Et là, c'est encore plus dur. Je parlais des lésions de strangulation. Quand il y a des violences au sein du couple depuis des années, en général, l'auteur des violences sait très bien que si la personne avec laquelle il vit sort dans la rue et qu'on voit des lésions sur les parties découvertes, bah, tout de suite, il va être peut-être suspecté, puisqu'on en parle beaucoup dans les médias et partout. Donc, en général, les lésions sont sur des parties couvertes. Mais il y a aussi, on parle souvent des violences sexuelles partout. Ces violences sexuelles n'entraînent quasiment pas de lésions. Il y a 80% des femmes victimes de violences sexuelles et 95% des enfants qui sont victimes qui n'ont aucune lésion génitale. Donc c'est très difficile pour ces victimes de faire valoir leur histoire, de se faire entendre sans lésion, puisque la lésion, c'est un peu la preuve absolue. Je souligne aussi, et je veux parler des personnes vulnérables, qui ont encore plus de mal à faire valoir leur récit, leur déclaration. Je pense aux femmes qui ont un handicap, le parcours est encore plus difficile, nous on le voit bien au quotidien dans 2 services dans lesquels je travaille, parce que les difficultés d'expression sont toujours un obstacle au fait d'être écouté. Et je pense notamment aux femmes qui ont un trouble psychiatrique, dont le récit va forcément être taxé d'incohérent, pas forcément par les médecins. Les psychiatres ont l'habitude et savent bien que ces femmes sont particulièrement des cibles pour être victimes, mais je pense plutôt aux autres intervenants qui vont recueillir leurs paroles. Et puis, il y a les conséquences qui, à mon sens, sont encore plus graves et encore plus durables que les lésions physiques, c'est les violences invisibles, c'est-à-dire les répercussions psychologiques des violences. Alors, soit c'est des violences physiques et il y a des répercussions psychologiques, soit c'est des violences psychologiques sans violences physiques associées, un phénomène très fréquent et impossible à quantifier. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait pas en France combien de femmes subissent des violences et encore moins combien subissent des violences psychologiques, puisque la définition ne fait pas vraiment l'objet de consensus. Alors ça, c'est le propre aussi des violences, des conséquences des violences sexuelles. Comme je le disais, il y a rarement de lésions physiques. Et quand il y en a, elles disparaissent très vite. Ce sont les conséquences psychologiques qui vont jouer un rôle. Majoritairement, ces violences, elles sont le fait de quelqu'un de connu, de quelqu'un de l'entourage. Et bien sûr, les phénomènes d'emprise, de contrôle coercitif sont très difficiles à rompre. La répétition de ces violences va aboutir à une banalisation qui souvent se transmet aux générations d'après, c'est-à-dire aux enfants qui, on parlait d'enfants témoins avant, maintenant on parle d'enfants co-victimes. Ces répercussions psychologiques, elles sont de 2 natures. Il y a d'abord les répercussions psychologiques pures, on les connaît bien maintenant. On sait qu'il faut pour ces femmes et ces enfants aussi qu'il y ait un parcours de santé mentale parce qu'on sait qu'il va y avoir un trouble de stress post-traumatique, des troubles de conduite alimentaire, des troubles du sommeil, des pressions, des conduites d'addiction, des automutilations. Tout ça, c'est extrêmement important, c'est un champ majeur, mais c'est relativement bien identifié. L'autre type de répercussions psychologiques dont on parle moins, c'est en fait des troubles somatiques sans atteinte organique. Et là, mon propos, c'est pas de dire que toutes les maladies chroniques sont dues à des violences. C'est de dire que quand il y a une répercussion physique, alors même qu'il n'y a pas d'atteinte physique et que cette répercussion est due à des troubles psychologiques, c'est encore plus difficile à détecter. Alors là, j'avais fait tout un paragraphe sur les répercussions cardiovasculaires. Mais il y a 3 professeurs de cardio dans la salle, donc du coup j'ai peur de dire des bêtises. Je voulais simplement dire que sur le plan épidémiologique, en France, on n'a aucune donnée. On est nul, on ne fait pas d'études. On ne sait pas si vraiment, comme on le dit à tour de bras, les douleurs chroniques sont plus importantes chez les personnes victimes de violences. Lombalgie, céphalée, douleurs abdominales, douleurs pelviennes. Dans les pays anglo-saxons, ils ont réussi à faire quelques études qui montrent, par exemple, que les facteurs de risque cardiovasculaire sont plus importants et plus nombreux chez les personnes qui ont subi des violences. Je pense notamment à l'obésité, au tabagisme, à l'hypertension artérielle, ce qui peut se comprendre parce que quand on est victime de violences chroniques, l'hygiène de vie s'en ressent, puisque le stress des violences répétées va entraîner eh bien, une mauvaise hygiène de vie, une surconsommation d'aliments malsains, un tabagisme. Et bien évidemment, quand on a des facteurs de risque cardiovasculaire qui augmentent, eh bien, on augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Et en fait, les anglo-saxons disent que c'est finalement plus facile de détecter les violences par un dépistage systématique que de traiter les conséquences des violences que sont les maladies cardiovasculaires et les infarctus du myocarde. Donc il faut étudier scientifiquement ces conséquences sur la santé parce que quand on comprend mieux les choses, eh bien, elles sont moins taboues.
Merci beaucoup à tous les quatre pour ces interventions tout à fait passionnantes.
Vous venez d'écouter la partie 1 de la table ronde Santé des femmes, levons les tabous. Nous vous retrouvons tout de suite dans la deuxième partie pour les échanges et les questions.